Bonjour à tous. Donc, puisque nous sommes tous là ensemble ce matin, c'est que nous nous sommes levés pour venir au culte. Se lever, c'est un acte qui paraît anodin, parce que nous le faisons tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Depuis le début du culte, nous nous sommes levés plusieurs fois. Donc, c'est un acte qui nous paraît naturel, presque instinctif. Mais quand on y réfléchit bien, cet acte et sa signification peut s'avérer plus important qu'il n'y paraît. En effet, le premier acte que nous faisons de la journée, c'est se lever. C'est cet acte qui, quelque part, propulse notre journée. Du sommeil, nous nous réveillons, nous nous levons, et nous affrontons, si je puis dire, la journée qui est devant nous. Nous la vivons. Cette importance, on peut peut-être aussi la voir à travers le fait que ce verbe est cité 177 fois dans le Nouveau Testament. Donc ça veut peut-être dire quelque chose. Les parents le savent, quand on veut que quelque chose rentre dans la tête, on le répète plusieurs fois, c'est important. Alors je vous propose de choisir un de ces passages parmi les 177 que nous lirons ce matin. Et il se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 22, les versets 6 à 16. Donc le livre des Actes, chapitre 22, versets 6 à 16, et c'est Paul qui parle. J'étais en chemin et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main, et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver et m'a dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » Ce n'est sans doute pas la première fois que vous entendez ce récit parce qu'il est bien connu. Il s'agit du récit de la conversion de Paul sur le chemin de Damas, ou plutôt à l'époque c'était Saul de Tarse, de sa rencontre avec Jésus le Christ. Ce récit est également relaté dans le même livre des Actes, au chapitre 9. Mais j'ai choisi de le reprendre un peu plus tard dans ce chapitre 22, au vu du contexte dans lequel Paul raconte ce récit. Il est à Jérusalem. Les choses ne se passent pas très bien pour lui, puisqu'il s'est fait arrêter par l'armée romaine. En effet, au chapitre précédent, on voit que le peuple juif l'accusait de donner un enseignement qui était contraire à la loi et à la tradition judaïque, et en plus d'avoir profané le temple en y faisant pénétrer des païens. Donc ils l'ont fait sortir du temple et ils voulaient le tuer. Donc quelque part, quand le commandant de l'armée romaine est intervenu, il lui a peut-être sauvé la vie. Paul se retrouve donc arrêté et il subit un interrogatoire de la part de ce commandant. Et là, il formule une requête. « Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Donc c'est ce qu'il demande. Moi, j'avoue que dans une telle situation, j'aurais demandé autre chose. J'aurais demandé au commandant, « Écoute, est-ce que tu ne peux pas me mettre à l'abri quelque part ou partons d'ici ?» Ou je ne sais pas, essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Mais certainement pas de demander à retourner devant ceux qui avaient essayé de me lyncher. J'aurais plutôt essayé d'éviter. Paul se retrouve devant le peuple juif et il doit s'expliquer. Il doit présenter une défense. Et ça doit peut-être vous rappeler quelque chose. En effet, Jésus, son Seigneur, quelques années auparavant, s'est retrouvé dans la même situation et a dû faire la même chose. Il a dû aussi s'expliquer, se défendre devant le peuple juif par rapport à ce qu'on lui reprochait et ce dont on l'accusait, et aussi devant le Sanhédrin, qui est le Conseil suprême des Juifs, ce que Paul aura aussi à faire plus tard au chapitre 23. Alors ici, en quelque sorte, c'est la plaidoirie de Paul. Et quels sont les arguments convaincants, percutants qu'il choisit pour s'expliquer, pour se défendre, pour calmer le jeu quand même, ils ont essayé de le tuer. Pour les rassurer aussi peut-être, parce qu'il y a un désaccord profond. Alors on imagine comme dans un procès, des arguments, des joutes verbales. Et là en fait, Paul choisit de faire un témoignage, son témoignage. Le témoignage de sa conversion. C'est ce qui lui semble le plus important et vraiment l'argument massu, percutant. Dans ce passage, il fait aussi œuvre de pédagogie à l'égard des Juifs. En effet, il affirme l'essentiel, ce que Jésus le Christ a fait pour lui, pour les Juifs, puisqu'il rappelle qu'il est l'un des leurs, mais aussi pour l'humanité. Notons que dans ce passage, on trouve deux fois l'expression, ou même plutôt l'injonction, l'ordre « lève-toi ». Et vous avez compris que c'était le thème de la prédication. Nous pouvons être surpris du contexte et des circonstances dans lesquelles cette injonction a été donnée. D'abord, qui la donne ? Au verset 10, c'est Jésus de Nazareth qui donne cet ordre à Saul de Tarse à l'époque. Donc, c'est celui que Saul de Tarse persécute qui lui donne cet ordre. D'ailleurs, Jésus le dit. Ensuite, au verset 16, nous voyons que c'est Ananias qui lui donne cet ordre. Lève-toi. Et là encore, Ananias, c'était un juif de Damas qui était disciple de Jésus. Donc finalement, c'est celui que Saul de Tarse s'était chargé de ramener à Jérusalem pour être enfermé, persécuté, qui lui donne un ordre. Donc c'est un petit peu original pour le moins, ou peut-être le monde à l'envers. Au chapitre 9 du livre des Actes, qui est un petit peu plus précis que ce témoignage-ci, on voit que s'agissant d'Ananias, Dieu l'a investi lui-même de cette mission, de se lever et d'aller rencontrer Saul de Tarse, ce qui n'était pas une chose très simple à faire pour Ananias, puisqu'en gros, ça consistait pour lui à aller quasiment se jeter dans la gueule du loup. Mais il y est allé, parce que cette mission lui avait été confiée. Cet ordre lui avait été donné par Dieu, qui lui avait aussi expliqué pourquoi il lui confiait cette mission. La deuxième chose étrange, c'est la réaction de Saul de Tarse. Je ne le connais pas personnellement, mais il n'avait pas l'air très sympathique à ce moment-là, j'imagine. Mais deux fois, quand on lui ordonne de se lever, il s'exécute, sans broncher, sans objection, sans résister, sans même poser de questions. Si on se met à sa place et qu'on repense peut-être au grand bouleversement de nos vies, au changement de cap, alors vous, je ne sais pas, mais moi, je vous avoue que ça ne s'est jamais fait sans résistance. Enfin, ou au moins, voilà, poser des questions. Si on me dit d'aller par là et que finalement c'est par là, je demande au moins pourquoi, c'est le minimum. Et là, non. Jésus ordonne à Paul d'aller à Damas. Alors, vous me direz, Paul était sur le chemin de Damas, donc il allait à Damas. A priori, ce n'est pas un gros bouleversement pour lui. Ben si, parce qu'il y a quand même deux changements par rapport au voyage initial. Le premier, c'est que Paul devient aveugle. Et quand vous voyagez, et même dans la vie, ça change pas mal de choses. Donc au départ, il se rend à Damas, il s'engage dans ce voyage avec toutes ses capacités et en cours de route, il est atteint de cécité physique et spirituelle. Deuxième changement, au départ, il avait une mission à accomplir. Il y allait dans un objectif bien précis. Et là, on lui dit d'aller à Damas, mais finalement, il change de mission et quelque part, il change de patron. Et on lui dira que c'est là-bas qu'il saura ce qu'il aura à faire. Entre Jérusalem et Damas, il y a 315 kilomètres. Avec les moyens de l'époque, j'imagine qu'on n'allait pas à Damas comme ça juste pour se promener parce qu'on avait une ou deux heures à perdre. Donc la moindre des choses, en tout cas pour moi, j'aurais bien voulu avoir une petite idée du pourquoi je devais aller à Damas. Ça m'aurait motivée pour me mettre en route. Et là non. Comme Abraham 2000 ans avant lui, Saul se lève et fait juste ce qu'on lui a dit. Aller à Damas, et c'est là-bas qu'il saura pourquoi et ce qu'il a à faire. La parole nous montre ainsi que rien ne peut arrêter la progression de l'Évangile. Ni les hommes, ni leurs faiblesses, ni les limites de toutes sortes. Lève-toi. C'est aussi un ordre. Et généralement, on n'aime pas tellement recevoir des ordres, surtout nous, les Français. Là encore, quand on nous donne des ordres pour les exécuter, je pense que nous le savons, ça ne se fait pas toujours sans résistance. Nous sommes très célèbres pour nos grèves, donc voilà, ça n'est pas toujours facile. En effet, il faut être crédible, légitime, avoir le statut et l'autorité nécessaires pour donner des ordres. Et c'est souvent à cette condition que nous acceptons de les recevoir et de les exécuter, de nous plier à ces ordres. Et pourtant, là encore, Saul n'a pas résisté. Il s'est exécuté, même quand Ananias, qui devait avoir un statut et une autorité bien moindre que celle de Saul de Tarse, lui a ordonné « Lève-toi ». Mais nous avons vu qu'Ananias était investi de cette mission. Il avait ainsi l'autorité et la légitimité nécessaires qui lui avaient été données par Dieu. Ceci illustre bien la souveraineté de Dieu et son autorité pour accomplir son plan comme il le veut, avec qui il veut. Alors, puisque le thème, c'est « Lève-toi », arrêtons-nous un tout petit peu sur cette expression. « Lève-toi », se lever. En grec, dans ce passage, c'est le terme « anastase » qui est utilisé. Et le terme « anastase » se traduit par « se lever », mais avec des sens légèrement différents qui se retranscrivent aussi en français. « Anastase » a le sens de « se lever après le sommeil », donc « se réveiller ».« Se soulever contre », ça on connaît. « Se lever pour partir quelque part ». »« Se mettre debout à partir d'une position assise ». »« Se relever d'une chute ». Et même dans un contexte biblique, « se relever de la mort » ou « ressusciter ». D'ailleurs, le mot « résurrection », c'est « anastasis » de la même racine. En effet, Saul est tombé à terre, nous l'avons lu. Et le Seigneur lui a ordonné de se lever, de se mettre debout pour partir à Damas. De même, lorsqu'Ananias exhorte Saul de se lever, on imagine qu'ils étaient tous les deux assis, et donc il lui a ordonné de se lever, c'est logique. Mais on peut aussi penser à ce sens de ressusciter. Alors, Saul n'est pas mort, pas encore, mais si on relit le verset 16, Ananias se dit « Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » Là, ça peut faire penser à la résurrection. En effet, je vous rappelle que Paul raconte ici sa conversion, c'est-à-dire sa rencontre avec Jésus le Christ, sa mort au péché, la mort du vieil homme et la naissance de l'homme nouveau qui répond à l'appel du Seigneur, reconnaissant en lui son Seigneur et son Sauveur, recevant le baptême et étant lavé de ses péchés par le salut que Jésus le Christ offre. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous aujourd'hui, à une époque où l'Église de Christ est plus ou moins bien bâtie, en tout cas elle existe, contrairement à cette époque, et que, contrairement à Paul, pour la plupart d'entre nous, a priori, nous avons déjà donné notre vie à Jésus. Est-ce que cette injonction nous concerne ? En lisant ce passage, ça m'a refait penser à un concert que j'avais vu à Nîmes pour la sortie d'un album de Pascal Gonzalez que vous connaissez et dont le titre s'appelle « Il faut qu'on se lève ». Très bon disque. Donc, pour lui, au moins, ça paraît une évidence. Ce message nous est adressé. Et je suis d'accord avec lui. Je pense que cette injonction, elle nous est aussi adressée à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et ce, à deux titres. Comme Saul, nous pouvons être celui à qui Dieu ordonne « Lève-toi ». Dieu nous ordonne de nous mettre debout, de sortir de notre sommeil, de notre léthargie parfois, de notre confort, de notre petite flemme, pour nous mettre en route vers Damas ou ailleurs. On n'est pas obligé d'aller à Damas, surtout en ce moment. Pour faire ce que Dieu nous dira de faire. En effet, nous devons nous lever sans avoir forcément en main notre feuille de route détaillée dès le départ. Nous devons lui faire confiance et il nous dit ou nous dira ce que nous avons à faire. Mais nous devons le faire dans une attitude à la fois simple et compliquée d'obéissance. Cette mission est propre à chacun. Celle que Dieu a confiée à Ananias n'était pas la même que celle qu'il a confiée à Saul. Et toute la Bible raconte aussi les missions de chacun, mais qui concourent aussi à un seul but, à un seul objectif, qui est de contribuer à la réalisation du plan de Dieu pour son peuple. La première chose que Dieu exige de nous, c'est de se lever. D'ailleurs, dans ces deux versets 10 et 16, les premiers mots sont effectivement ceux-là. « Lève-toi ». Et même lorsqu'Ananias s'adresse à Saul, il dit « Lève-toi, petit 1, sois baptisé, petit 2, et sois lavé de tes péchés. » Mais il commence par dire « Lève-toi ». Mais se lever coûte. Nous le savons quand parfois nous avons quelques douleurs aux articulations, aux jambes. Quand il faut se lever, ça coûte. Ou même sans cela, quand on est bien installé dans un fauteuil confortable et qu'il faut se lever, ça coûte. Quand il faut se lever le matin pour aller au travail ou à l'école, ça coûte aussi un peu. Mais la vie avec Dieu coûte. Dietrich Bonhoeffer parle d'ailleurs aussi de la grâce qui coûte. C'est aussi pour cela que Dieu nous permet parfois de tomber à terre pour nous relever. Mais avec cet encouragement que l'on trouve dans Proverbe 24, verset 16, « Sept fois le juste tombe et il se relève. » Comme nous l'avons vu, Anastase a aussi le sens de ressusciter parfois. Nous sommes bien vivants, mais il nous faut peut-être nous rappeler régulièrement que, comme le dit ce même Paul par ailleurs, par notre union à Jésus-Christ, Dieu nous associe au bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 5 et 6, il dit même qu'il nous a ressuscités ensemble. La résurrection de Christ garantit notre régénération, notre nouvelle naissance, qui doit se traduire en actes, qui doit nous permettre aussi de nous lever en étant vivifiés par le Saint-Esprit. Mais comme Ananias, nous pouvons être aussi celui qui dit à un frère ou à une sœur « Lève-toi ». À l'image de Saul, qui était vulnérable puisqu'il était atteint de cécité, l'injonction « Lève-toi » peut aussi s'avérer être un encouragement à aller de l'avant, au-delà des épreuves qui peuvent nous accabler, pour pouvoir ainsi les surmonter. Dans certaines circonstances, cet acte est rendu difficile par les épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre vie. La vie est pleine de moments où notre force et notre courage sont mises à l'épreuve, mais il nous faut néanmoins être capable d'aller de l'avant. Ainsi, lorsque nous sommes malades physiquement, cloués au lit avec 42 fièvres, ou alors déprimés, au fond du trou, comme cela peut arriver, nous restons couchés. Et le fait de se lever, c'est déjà le premier signe vers la guérison. C'est un bon signe. Mais nous ne sommes pas seuls pour accomplir cet acte. Saul a été aidé par ces hommes qui l'ont pris par la main lorsqu'il était aveugle pour aller vers Damas. Ananias a été investi par Dieu qui l'avait préparé pour cette mission et qui avait aussi préparé Saul à le recevoir. Et surtout, le passage que nous avons lu se termine par l'exhortation en faisant appel au Seigneur. Alors oui, nous devons nous lever, mais lorsqu'il faut se lever, rassurez-vous, nous ne le faisons pas seuls. Evelyne Zuber, une autrice chrétienne suisse, a écrit un livre qui s'intitule « Lève-toi et va vers la vie ». Si vous ne deviez retenir qu'une seule phrase ou une seule chose de cette prédication, c'est peut-être le titre de ce livre, « Lève-toi et va vers la vie », parce qu'il dit tout. Lève-toi et va vers la vie en Dieu, la vie avec Dieu, la vie pour Dieu, la vie parce que Dieu. Puissions-nous peut-être nous le rappeler parfois, quand nous faisons cet acte anodin au quotidien de nous lever, et que cela puisse aussi motiver et encourager les plus faibles pour se lever quand ils ne sont pas toujours en capacité de le faire. Que ce soit un mot d'ordre pour chacun, que ce soit un mot d'ordre aussi pour l'Église. Et je terminerai avec les paroles du refrain de la chanson de Pascal Gonzalez. Il faut qu'on se lève, qu'on se fasse entendre. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on soulève des cœurs ensemble. Et je vous invite donc à vous lever pour chanter bien sûr le cantique « Toi, lève-toi ».